Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, et nous revoilà pour un carnet de route.
We're gonna let you go, okay? Et nous revoilà pour une émission carnet de route du projet Samarconde.
I'll do it.
Samarconde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté.
Salut, salut à tous.
Bonjour, Bilal.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Nyx.
Bonjour.
Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis en train de grandir, mais c'est dur, quoi.
Vous respirez, je veux partir, vous êtes plus à l'aise.
Vous pouvez parler franchement, ça me dérangerait pas.
On est sur Terre, on l'a peut-être pas demandé, mais on peut vivre avec.
Qui on est pour juger quelqu'un d'autre? Les carnets de route, ce sont des projets éducatifs proposés par l'AMO Samarcande.
I'll do it.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et nous revoilà pour un carnet de route aujourd'hui en compagnie de Romain. Et je vous rappelle que le carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui en ont fait la demande de s'exprimer en toute liberté pendant à peu près une heure. Et aujourd'hui, dans le magnifique petit studio mobile de Samarcande, j'ai le plaisir d'accueillir Romain, à qui je dis bonjour.
Bonjour.
Bonjour à Romain, je suis content de te revoir après une semaine, c'est ça hein?
Moi aussi, oui, exactement.
Et avant de te présenter Romain, je voudrais te poser une question, même deux questions. C'est, la première, c'est qu'est-ce qu'on a fait la première fois qu'on s'est vu dans le studio?
Ben, premièrement, on a parlé de ma situation, de pourquoi je voulais faire ce projet. On a parlé, on a construit une relation de confiance pour préparer cette émission.
Et la deuxième question hein, Romain, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet?
Ben, j'ai toujours aimé la radio et pouvoir, pouvoir m'exprimer. Donc pour moi, c'était une occasion de pouvoir m'exprimer, de pouvoir découvrir l'univers de la radio, etc.
Ouais, voilà. Comme ça, nous, ça nous permet aussi de mieux apprendre sur votre génération. Voilà, sur la génération, tu as quel âge?
15 ans.
15 ans, et la plupart des jeunes que l'on va voir, ils ont entre 13... 18 par exemple. Est-ce que c'est la même génération? Je ne sais pas. Parce que tu n'as pas 18 ans.
Non.
Tu as 15. Et la grande différence entre un jeune de 15 ans et 18, c'est quoi? Ma question est peut-être un peu bête, mais...
Bah, l'expérience de vie et la maturité.
Mmh. Et tu penses que l'expérience de vie et la maturité, ça aide dans la vie à se dépêtrer parfois de difficultés?
Ben oui, parce que si on s'est déjà confronté à une situation et qu'on la revit, ben, on aura peut-être plus facile à pouvoir l'appréhender et à pouvoir gérer la situation que si c'est la première fois qu'on l'a vécu, quoi.
Et tu penses qu'on gère, alors on a une banque de données, enfin une banque de données dans la tête, et si on se retrouve dans une situation, eh ben on arrive à aller chercher ces petites choses que l'on a apprises?
Ben, je pense que si on a conscience qu'on se retrouve dans la même situation qu'on s'est déjà retrouvé, ben on peut s'en sortir en utilisant nos erreurs qu'on a faites par le passé pour ne pas les reproduire et pouvoir avancer, quoi.
Aujourd'hui, Romain, tu vois ce petit tas de feuilles ici,
oui.
C'est toutes des petits mots, des phrases qui viennent de toi et que j'ai repris de ta préparation la semaine passée. Parce que je trouve ça plus intéressant qu'à un moment, c'est toi qui les lises, voilà, parce que ça vient de toi, plutôt que c'est moi chaque fois qui parle, tu vas voir. Et alors, ce qu'on va faire, c'est parler de quatre sujets à peu près. Moi, j'ai noté, c'est parler de ton vécu, de l'adolescence par rapport à ta génération, et puis tes projets d'avenir un peu. Et dedans, il y aura aussi parler de l'IPPJ et d'autres choses aussi. Et ça, tu le découvriras. Et chaque fois, on a essayé de l'associer. Je dis bien, j'ai essayé de l'associer avec une musique.
Ouais.
Plutôt, quel genre de musique on va écouter aujourd'hui, Romain?
Je pense qu'on est plus sur de la pop, etc. Enfin, pas trop du rap.
Moins du
rap. Je
sais
plus exactement quel style de musique c'est, mais...
Bah, par exemple, Lana Del Rey. Après, tu me donnais des titres, je ne sais plus si c'est les titres ou les groupes, mais il y a Happy Nation, par exemple.
Ah oui, c'est un titre.
The Weeknd, Amy
Winehouse. Ouais.
Voilà, et puis ça, ça fait partie de ton univers musical. Et puis à chaque fois, moi, je te demanderai d'investir la musique et de me dire pourquoi tu as quand même... Est-ce que tu es ému par ce morceau-là, etc., etc. Ça va?
Ouais.
C'est bien expliqué?
Oui.
Bon. Et alors, ce que je voulais te dire aussi, c'est justement, on va écouter ta première musique. Et là, c'est... Parce que je ne la retrouve plus. Oui, c'est ça. Et c'est... Lana
Del Rey.
Exactement. Ça fait un peu radio, ça. Il ne faut plus que je fasse ça. Tu vas chanter?
Oh non, je... Je ne sais pas chanter, ça va être horrible. Il va pleuvoir.
Ah non,
déjà qu'on a de la chance, il fasse un peu beau.
Ouais.
Summertime sadness. I just wanted you to.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God.
Donc voilà, on vient d'écouter Summertime Sadness de Lana Del Rey. Donc si j'ai choisi cette musique, c'est parce que je trouve que la mélodie est assez apaisante et elle me permet de m'évader dans mes pensées. Et la mélodie, je la trouve assez aussi mélancolique. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette musique pour introduire mon vécu. Parce que même si d'apparence on peut penser que j'ai un vécu qui est assez chouette et... que j'ai vécu dans une bonne atmosphère, il y a quand même de la mélancolie et des passages plus tristes dans mon vécu, et que c'est pas tout rose, quoi. Et un peu comme tout le monde aussi, je le pense. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette musique était bien pour introduire ce passage de l'émission.
Sur ton vécu, merci beaucoup Romain. Et alors ce que j'ai fait, je vais utiliser la première feuille ici. N'oublie pas aujourd'hui s'il y a des choses dont tu veux plus parler, Romain, tu le dis simplement. Et aussi, permets-toi de me dire si tu trouves mes questions un peu à côté de la plaque. Monsieur, on passe cette question-là.
D'accord ? Ça va, je ferai ça.
Gentiment. Si. Je vais te demander de reprendre chaque mot ici, qui sont des mots qui sont importants pour le moment dans ta vie, et d'expliquer à chaque fois pourquoi tu les as choisis.
Ok. Donc, le premier mot, c'est famille. J'ai choisi ce mot parce que pour moi, ma famille, ça reste quand même quelque chose d'assez important. C'est une part de ma vie. C'est une part de mes valeurs, une part de mon éducation. C'est moi, quoi. Ma famille, c'est une part de moi. Mais c'est aussi ma famille qui m'a conduit parfois à des passages plus tristes dans ma vie, à des conduites dangereuses pour moi et pour les autres. Et ma famille, ça a été aussi une étiquette que je portais parce que je viens d'un milieu noble. Mon nom de famille qui est noble. Et dans ces familles-là, on a certains codes à respecter, etc. Donc, c'était pas facile non plus à vivre. Et j'avais souvent aussi cette étiquette du petit riche, noble, qui a une vie parfaite. Mais on verra plus tard que c'était pas tout à fait ça, quoi. Ensuite, j'ai choisi l'isolement parce que c'est quand même une grosse période de ma vie qui a commencé, je dirais, en décembre 2023. Qui m'a conduit donc au troisième mot dans une dépression. Enfin, je pense que c'est une conséquence d'une dépression, où la dépression était une conséquence de cet isolement. le mot suivant rejoint aussi tout ça, donc le radicalisme. Cet isolement ainsi que cette dépression a fait que je me réfugie dans des idées extrêmes. Et donc le dernier mot qui est extrême droite, c'était des idées donc, d'extrême droite. Parce que encore, on va en revenir à la famille. J'étais dans une famille où voilà, on avait quand même nos préjugés sur les étrangers, etc. Et donc, étant donné que j'étais isolé et que j'étais attaché finalement à ça, étant donné que c'était le truc qui... je pense comme toute personne qui se radicalise, il est isolé, il développe une haine, et quand il trouve quelque chose contre quoi il peut donner sa haine, il s'y rattache, et donc c'est un peu son évasion. Et donc, plus je m'isolais, plus je déprimais, j'ai cherché toujours plus pour essayer d'essayer de trouver ce bonheur au final dans cette violence et dans cet extrémisme, quoi.
Ce bonheur, c'est ça que tu disais ?
Pas tout à fait, mais c'était un peu la façon de m'évader, quoi, de penser à autre chose.
Pourquoi étais-tu si isolé, Romain ?
Je pense que c'est dû en partie à un certain harcèlement que j'ai vécu depuis ma première secondaire à l'école, qui m'a suivi en tout cas jusqu'à cette année, donc en quatrième. Et je pense aussi que c'est dû à ma personnalité, parce que j'étais assez introverti, et je veux dire, je me suffisais moi-même, et donc finalement ça m'a tiré vers le bas, quoi. Et ce mélange, ce mauvais cocktail, a fait que je m'isole complètement et que je me détache, quoi. Étant donné que j'étais dans ma chambre tout seul avec un téléphone et un ordinateur, au fur et à mesure du temps, je m'enfonçais dans les façons d'Internet, dans des espèces de groupuscules pas très fréquentables pour moi maintenant.
Et comment est-ce que tu... Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour te donner l'idée d'aller sur ces sites-là
Honnêtement, ça, je ne sais pas du tout. C'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est fait automatiquement, comme ça. C'est aussi mon harcèlement qui était en partie fait par des personnes de nationalité étrangère et de couleurs différentes. Et donc, j'ai tout de suite fait cet amalgame. Et donc, je pense que ça m'a conduit à me rattacher à ces idées en me disant que... ils me font chier, c'est peut-être qu'ils sont tous comme ça. Et donc, en voyant des partis politiques qui prenaient ça, etc.
Qui prenaient quoi ?
Qui prenaient leur expulsion, par exemple, ou leur retrait de la nationalité, pour en revenir à l'expulsion, ou des peines plus dures pour eux. Et je voyais ça, et donc je fréquentais, entre guillemets, des gens comme ça sur des forums qui étaient reliés à ces partis, qui, eux, en fait, étaient plus extrêmes que ce qu'ils disaient. Donc après, on parlait avec eux, puis on allait sur d'autres forums, etc. Et donc c'est comme ça qu'on devient encore plus extrême, étant donné qu'on voit des choses, on essaie de nous retourner le cerveau, quoi.
Tu n'étais pas passif dans cette prise d'information. Ça veut dire que tu communiquais, vous échangeais sur des forums des idées que tu pouvais partager avec eux, c'est ça que tu dis ?
Oui, c'est ça.
Tu restais pas passif à prendre uniquement des informations, à regarder...
J'ai jamais vraiment parlé, j'étais plus... je regardais plus, et donc... il m'est déjà arrivé parfois de répondre à certains messages, mais sans entrer dans des grandes conversations, quoi.
Jamais tu ne t'es dit, ils vont trop loin ?
Dans cette période-là, non.
Parce que, regarde, une autre petite feuille, je te demanderai de lire les deux choses qui sont indiquées.
Racisme et droiture extrême.
C'est ça qui est ressorti la semaine passée, de cet intérêt assez... Pourquoi cela ? Rappelle-le-moi.
Le racisme, ce mot, j'avais quand même des a priori sur des personnes qui n'étaient... sur des groupes de personnes, des communautés, donc c'est qualifié comme du racisme. Et la droiture extrême, c'est parce que j'étais assez totalitaire, et j'étais... Pour moi, tout le monde devait suivre un même chemin et personne n'avait droit à l'erreur, quoi.
Tout ce qui dépasse.
Oui, il faut le retirer de la chaîne, quoi. Parce que, c'était ma vision avant. Tout le monde devait être conforme aux lois et personne ne devait divaguer. Et,
C'est un monde particulier, ça.
Oui, c'était non. Totalitaire, quoi.
Mais est-ce que tu as l'impression que ton point de vue, honnêtement, Romain, il a changé par rapport à ça, parce que je viens de voir ta tête. Tu te rends compte un petit peu du monde dans lequel on vivrait si tout devait être dirigé de cette manière-là, oui. sans aspérité, sans petites choses qui dépassent, puis cloup.
Ouais, non, c'est plus mon avis actuellement. J'ai quand même ce passage en IPPJ m'a fait mûrement réfléchir et non, c'est pas. Je veux dire, il faut vivre avec la diversité de chacun et c'est ça qui fait la richesse du monde, quoi.
Tu le penses vraiment ?
Oui.
Et par rapport à ta colère, je doute pas, hein, excuse-moi, oui. Mais par rapport à ta colère passée, suite à ce que tu as vécu au niveau du harcèlement, comment est-ce que tu fais pour intégrer ça maintenant vers une ouverture et une possibilité que cette diversité elle, puisse coexister ?
J'en parle aux psychologues de mon vécu et aux psychiatres et aux éducateurs ici, donc ça me relâche un peu de cette pression. Et je me dis que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, ça peut arriver encore plus... Moi, je l'ai vécu assez... Il était assez soft, je veux dire, mon harcèlement. Il y a des gens qui ont vécu du harcèlement beaucoup plus pire que le mien. Et ça, j'en suis conscient. Et donc, je suis pas non plus à plaindre. Et voilà, et je me dis que ça peut arriver à tout le monde et que ça m'est arrivé. C'était une étape de ma vie. Mmh. Et que si ça doit à nouveau se reproduire, je sais maintenant comment lâcher cette pression. Donc, aller trouver des adultes ou des personnes de confiance qui pourraient m'aider, quoi.
Je voulais juste poser une question, là j'improvise, tu me dis si elle est idiote, mais les gens qui choisissent d'adhérer à l'extrême droite, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens en colère ?
Moi je pense que c'est beaucoup des gens en colère et aussi des gens perdus, qui ne savent pas quoi penser. Et donc l'extrême droite, tout autant que l'extrême gauche, leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et donc, ces personnes qui ne savent pas quoi voter, qui sont un petit peu perdues, on leur tend directement une solution. On dit, votre malheur, c'est ça, et on peut le régler. Et donc, pour moi, c'est une partie de gens en colère qui, oui, certains se disent que oui, les étrangers, c'est le problème. Et il y en a qui ne savent pas. Et sauf qu'on leur dit, c'est ça, et on a la résolution du problème. Donc, pour moi, c'est une part de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas... qui ne savent pas quel est le problème, et une partie de personnes qui sont en colère. Quoi.
Et que faire ? Parce que toi, c'est né d'une... Je ne sais pas si c'est de la frustration, mais d'une colère, d'une tristesse quand tu étais à l'école. Et comment sait-il que toi, on n'ait pas vu ta souffrance quand même à l'école, et que tu te sois retrouvé si isolé aussi par rapport à cette, cette souffrance liée à du harcèlement ?
C'est parce que j'avais un certain don pour cacher ce que je ressentais. Je mettais tout le temps un masque et donc les gens ne s'en rendaient pas compte, à part quand ça se passait directement dans la cour. Les éducateurs le voyaient, me demandaient ce qui se passait. Moi, je disais que c'était simplement un petit accrochage. Et... Parce que j'avais peur d'en parler, que ça se répercute de manière plus grave, quoi, que ça en vienne au physique ou... même du aller m'attaquer au mental, mais encore plus violemment, quoi. Et donc, je préférais prendre une sécurité, comme ça.
Et tu me disais aussi que ta sœur, si je peux me permettre, oui. était aussi dans la même situation. Tu la voyais aussi se faire harceler, c'est ça ?
Oui, elle, dans un premier temps, elle n'a pas vécu la même chose que moi. Elle, c'était en primaire. Elle avait dû changer d'école pour ça. Et dans la nouvelle école où elle a été, elle en a resubi à nouveau. Et puis quand elle est passée en première secondaire, les personnes qui s'en prenaient à moi s'en sont pris à elle, vu qu'ils savaient que c'était ma sœur.
Et la famille, ton papa, ta maman, avec eux aussi, tu masquais ta tristesse ?
Oui, enfin, moi oui, ma sœur le faisait moins. Moi je le faisais moins parce que ma sœur un jour a décidé d'en parler. Et la réaction de mes parents était pas très humaine. Mon papa a surtout accusé ma sœur que c'est de sa faute, que ça lui arrivait, que c'était elle qui foutait la merde. Et donc depuis, je me suis dit, moi je vais pas en parler parce que j'ai pas envie qu'au final on ne m'écoute pas et qu'on m'accuse de ce qui s'est passé, quoi.
Est-ce que tu t'en veux ? Est-ce que tu en veux à tes parents ?
Je leur en veux pas spécialement, mais je pense qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. C'est pas eux qui ont fait la bêtise, mais le fait que je m'isole et que j'ai certaines idées, enfin des souches d'idées, et que j'ai pas non plus osé parler de mes problèmes à mes parents, c'est quand même une part de leur responsabilité, quoi, je pense.
Et est-ce qu'un travail est fait avec eux maintenant pour avoir, ouvrir ce dialogue avec eux ?
Normalement, il va y avoir un travail, enfin une rencontre entre moi, l'assistante sociale, la psychologue, éventuellement mon éducatrice référente, qui va se passer le 26 juin ou le 27.
Tu redoutes ou tu attends avec impatience ça ?
Je suis assez mitigé, parce que d'un côté j'ai peur que ça se fasse, parce que j'ai peur de la réaction de mes parents quand ils vont être exposés aux faits, enfin de ce que je leur reproche. Et d'un côté j'ai hâte de renouer le lien et d'avoir à nouveau une belle relation avec mes parents, mais j'appréhende les réactions.
Et en quelques mots, si tu devais exprimer les reproches que tu aurais à leur faire, ce serait quel reproche ?
L'abandon, enfin le semi-abandon de ma maman, parce que elle se réfugiait dans l'alcool, et donc pour moi, j'avais plus de maman quand elle buvait, c'était plus la même personne. Donc c'était comme une sorte d'abandon, ma mère qui me lâchait, de la manipulation de ma part de ma maman aussi, et puis mon papa, un manque de présence et d'écoute pour ses enfants.
Romain, merci de ta confiance. Je te propose, c'est une deuxième musique pour un deuxième sujet,
oui.
Et ici... J'espère que je ne me suis pas trompé.
Non, c'est bien ça. Donc nous voilà de retour dans l'émission Carnet de route avec moi-même Romain et monsieur...
Christian.
Voilà, donc là on vient d'écouter Happy Nation de Ace of Base. Donc, je vais vous parler de. Enfin, j'ai utilisé cette musique, pardon, pour vous parler de mon passage en IPPJ, si c'est un mal nécessaire, et de mes conduites défaillantes qui m'ont amené là-bas, quoi.
Conduites défaillantes.
Mes mauvaises conduites et.
Lié à ton vécu aussi.
Oui. Hein.
Mais justement, moi, j'ai repris comme tout à l'heure pour t'aider. Je vais te montrer des petites phrases qui viennent de toi. Ah oui, d'abord, il y avait l'utilisation, oui, du dark web. Faudrait que tu m'expliques, si tu veux bien, m'expliquer ce que c'est.
Le dark web, c'est en fait une face cachée d'Internet qui n'est pas référencée par les sites normaux et par les moteurs de recherche normaux comme Google, Firefox, etc. Vous ne pouvez pas y accéder. Et en fait, vous devez utiliser un logiciel qui s'appelle Tor, qui est un autre moteur de recherche qui le permet. Et avec ça, en fait, vous pouvez accéder à une sorte d'Internet qui n'est pas officiel et où vous pouvez acheter des matières stupéfiantes, des armes à feu et tomber sur des forums, trouver des forums extrêmes de toute idée politique. Et c'est un peu la base des criminels, des extrémistes. C'est un peu une face sombre du monde, quoi.
Une face sombre du monde,
oui.
C'est ça. Et qu'est-ce qui t'amène à aller là-dessus, sur ce genre de site?
Premièrement, en fait, j'étais assez fan d'informatique, depuis toujours, en final, parce que mon père était informaticien à l'époque. Donc j'ai grandi dans les ordinateurs, etc. Et un jour, j'ai connu l'existence du Darknet. Et donc, petit enquêteur que j'étais à l'époque, j'essayais de comprendre les ordinateurs, Internet, etc. Et donc je me suis dit, je vais aller explorer ça, ça a l'air intéressant. Et donc premièrement, j'ai exploré ça, j'ai vu ce que c'était, j'ai fait, ok, c'est voilà. Et plus j'y suis plus retourné parce que j'ai vu ce que c'était, et je n'étais pas plus intéressé que ça. Et puis arrivé dans ma mauvaise période, on va dire, dans mon isolement, ma radicalisation, je me suis rappelé, je me suis dit... Ah, mais le Darknet, c'est un bon moyen pour pouvoir trouver des gens qui pensent comme moi, pour pouvoir voir ce que j'aime voir, des trucs assez violents et extrêmes. Mmh. Et donc, j'ai utilisé mes connaissances que j'avais de l'époque pour y retourner. Et donc, je l'ai utilisé à mauvais escient et pas dans le but juste de voir ce que c'était, quoi.
Mmh. Et ici, je te donne ceci.
Je franchis des limites. Je franchis des limites parce que, premièrement, aller sur le Darknet, c'est quelque chose qui n'est pas légal. Donc, si vous voulez y aller, il ne faut pas y aller. Voilà. Et puis, j'ai pris contact avec des gens pas fréquentables, avec des trafiquants d'armes, avec des extrémistes. Et donc, j'ai franchi des limites parce que ça peut me mettre dans une très mauvaise posture si c'est quelque chose qui est trouvé, ou imaginons vous êtes sous surveillance et qu'on voit ça, ça peut vous mettre dans de très mauvaises postures, quoi.
C'est toujours la colère qui te motivait, Romain ?
Là, c'était la soif...
D'une forme de vengeance ?
Oui, d'une forme de vengeance, et pour toujours être assasié de la haine des autres, etc. Enfin, je voulais qu'on haïsse ces gens-là, et donc voir que des gens le faisaient aussi, ça me rendait, plus heureux, si je puis dire. Et ça me satisfaisait, quoi.
Mais pas forcément pour les mêmes raisons que toi, liées à du harcèlement.
Non, il y en a qui le sont, parce que ils le sont. Peut-être comme ça, naturellement. Mais moi, je voulais essayer de me trouver une communauté, vu que j'étais rejeté.
Tu crois qu'on peut haïr naturellement les autres ?
Je pense que non. C'est toujours... Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on n'aime pas quelqu'un, à mon avis. Ça peut être sa personnalité, son comportement, ou même les préjugés qu'on a entendus et qu'on était en train de se construire à ce moment-là. On peut adhérer à ces préjugés en pensant que c'est une réalité.
Mais c'est ça que le truc, c'est que tu peux ne pas aimer quelqu'un, quelle que soit son origine, mais qu'est-ce qui fait que tu englobes toute la communauté ?
J'étais en construction, et justement, c'est les préjugés, j'y ai adhéré, je me suis dit, c'est vrai, je me fais harceler par des Noirs et des Arabes, c'est tous des méchants, vous voyez, c'est... J'ai fait l'amalgame et puis j'ai pris ça pour une réalité, quoi.
Petite feuille.
La mise en danger. J'ai mis en danger ma propre vie. Hein, en étant dans cette période-là, parce que j'étais quand même dans un état dépressif, et je suis passé par des phases très sombres envers moi-même, et il m'arrivait parfois de, sur le darknet, sur des forums, je trouvais par exemple des petits mélanges chimiques à faire que j'expérimentais, mais c'était pas, ça explosait quoi, c'était comme des mini explosifs, et je faisais ça comme ça dans mon garage avec un ami. C'est quand même, c'était dangereux quoi, j'étais pas conscient de ce que je faisais, et je faisais tout le temps comme ça des trucs un peu dangereux envers moi-même et peut-être même envers les autres. Si quelqu'un se trouve à proximité, ça peut être dangereux. Donc la sécurité nationale s'en mêle, donc ça, c'est par rapport à mes faits. Étant donné que j'étais radicalisé, en tout cas en train de me radicaliser, et que je consultais des forums qu'il ne fallait pas fréquenter, et j'ai fait des recherches problématiques, et automatiquement, la Sûreté de l'État se met dessus pour voir qu'est-ce qu'on fait. Elle vient nous regarder, elle se dit « Tiens, pourquoi cette personne tape sur Google, je sais pas moi, comment faire une bombe ?»
Et pourquoi tu n'étais plus sur le Darknet à ce moment-là ?
Parfois, en fait, avant de chercher ça sur le Darknet, il m'arrivait de chercher sur Google certaines recherches. Et donc, il suffit de ça, de faire une petite faille ou quelque chose comme ça, et hop, directement, on est surveillé, quoi.
Et c'est apparenté à de la, c'est ça ?
De la cybercriminalité. Tout à fait, aller sur le Darknet, ça peut s'apparenter à de la cybercriminalité parce que c'est, on fait quelque chose qui n'est pas, légal, et c'est sur un ordinateur, donc c'est du cyber et criminalité. Et c'est d'ailleurs là que se trouve mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette, dans une brigade contre la cybercriminalité.
Et la conséquence, c'est ?
Que les policiers interviennent et viennent m'arrêter donc chez moi pendant les vacances de carnaval, c'est le mercredi de la première semaine. C'est là que une petite dizaine de policiers viennent m'arrêter pour me priver de ma liberté parce que je représentais une menace pour la sécurité nationale.
Et tu ne t'y attends pas du tout à ce moment-là ?
Non, je m'y attendais pas du tout. J'étais tranquillement chez moi, je regardais une série Netflix avec ma maman. Et je monte dans ma chambre, et puis là, ma sœur qui vient dans ma chambre pour me dire « Romain, il y a la police qui est là pour papa. » Parce qu'en fait... pensait que c'était pour mon papa, parce que mon papa était à l'extérieur à ce moment-là. Et il l'avait encerclé. En fait, c'était juste pour demander à mon papa où j'étais. Et donc là, ils sont rentrés... ils se sont mis devant la maison, et ils ont demandé si j'étais là. Je suis descendu, puis ils m'ont arrêté, ils m'ont privé de ma liberté, et emmené au commissariat, et fouillé ma chambre. Là où ils ont saisi une arme à feu, un ordinateur, une tablette et un téléphone.
Et ce sur quoi tu dois travailler et qui t'est reproché, ce sont ces trois choses-là, c'est ça ?
Oui, donc c'est menace d'attentat parce que je voulais me venger sur ce qui m'était arrivé à l'école, dans mon école. Et donc j'avais projeté de commettre une tuerie de masse dans mon école. Ce que je n'ai pas fait, mais j'y avais pensé, il y avait des traces de messages sur mon téléphone qu'ils ont pu intercepter et donc m'arrêter avant.
Ton intention, c'était vraiment ça, te procurer une arme et puis d'aller à l'école,
oui.
Et de l'utiliser contre ceux qui... contre qui tu étais en colère, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et je me suis ramené à l'école le vendredi juste avant les vacances avec l'arme à l'école. Je suis pas passé à l'acte parce que j'ai quand même eu un peu de lucidité ce jour-là et je me suis dit que non, c'était pas une bonne idée, mais il y avait des traces qui disaient que j'allais le projeter après les vacances et donc je me suis fait arrêter pendant les vacances quoi.
Qu'est-ce que tu penses de cette arrestation ? Qu'est-ce que tu penses de ce temps d'arrêt qui t'est imposé ?
Je pense que c'était franchement une très bonne chose. Il fallait que ça arrive. Et je pense que c'était nécessaire pour répondre à la question de base. Est-ce que l'IPPJ c'est nécessaire ? Franchement oui. Parce que ça m'a arrêté dans mon processus de radicalisation. Ça m'a fait prendre conscience que c'est pas des bonnes idées à avoir. Qu'avoir une arme chez soi, faut pas. Menacer les gens avec des armes, faut pas. Et donc ça me permet donc de déconstruire les idées que j'ai pu avoir et de me remettre sur un chemin de la légalité, quoi, sur le chemin de la légalité, où je ne vais plus sur des sites que je ne dois pas aller et que je ne dois plus tenir de tels propos, etc. Et que j'apprends maintenant à parler à l'adulte pour pouvoir me confier, expliquer mes problèmes et ne pas intervenir moi-même.
T'as l'impression d'être un peu moins isolé, mais en même temps, ici, il y a beaucoup de jeunes qui me disent porter des masques. C'est fréquent, ça, tu vois. Je sais plus comment, double face, ou je sais plus ce qu'ils disent, mais aussi bien chez les filles que les garçons, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être disponibles pour travailler sur leurs faits parfois, ou avoir des réflexions vis-à-vis de l'adulte. Toi, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en toi, un mécanisme qui s'ouvre par rapport à l'adulte et à...
Premièrement, j'avais beaucoup de mal à faire ça. J'avais aussi ce côté de masque. Enfin, ça, c'est une partie de ma personnalité. Premièrement, après, c'est ça qui a fait que j'ai été reprolongé ici. Parce que, en fait, je me fermais et je voulais pas parler à l'adulte parce que j'ai toujours eu du mal à faire confiance aux gens. Et donc, des personnes comme ça qui viennent s'incruster dans ma vie, c'était bizarre pour moi. Et donc, je ne parlais pas trop. Et la façon dont je racontais mes faits était pas toujours la même chose. Il y avait toujours des petits trucs que je disais pas. Et puis, en fait, on en apprenait plus. Et donc, voilà, parce que j'essayais un peu de cacher qui j'étais. Et puis, une fois arrivé à Warner, la première semaine, enfin on va dire premier mois, j'avais toujours ce petit problème. Et puis finalement, je me suis ouvert, je me suis dit que voilà, j'étais plus en confiance et je me suis dit qu'en fait c'est pour mon bien, que ça allait m'aider, c'est là que j'ai en fait pris conscience et donc j'ai retiré mon masque et je me suis dit maintenant il faut que je sois honnête, il faut que je m'en sorte. Et voilà.
Et par rapport à ton appréhension face à la discussion que tu auras avec papa et maman, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut peut-être aider, cette rencontre, le fait que tu sois moins réticent à aller vers l'adulte, même tes parents?
Je pense que oui, ça m'a aidé, donc ça va être une bonne chose. Comme ça, je vais pouvoir parler en toute transparence à mes parents et pouvoir leur dire vraiment ce qui m'est passé par la tête et avoir une discussion plus mature que ce que je pourrais avoir, ce que j'aurais pu avoir avant, quoi.
C'est juste une chose, si je veux vraiment être complet, hein, Romain, mais tu peux m'envoyer balader. C'est par rapport à, tu vois, les différentes raisons pour lesquelles on t'a intercepté, les raisons pour lesquelles on t'a arrêté. À un moment, la semaine passée, tu me disais que tu ne comprenais pas tout, en fait, pour les raisons qui sont données.
Donc, dans un de mes faits, qui est menace avec ordre ou condition, c'est un fait que je ne comprends pas tout à fait. Parce que menace avec ordre ou condition, ça veut dire qu'on menace quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose et s'il le fait pas, on fait quelque chose en réponse. Et c'est pas ce que j'ai fait, vous voyez. J'ai fait une menace qui était directe en disant voilà, j'allais faire ça, 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 ça. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ce fait n'est pas, pas en rapport avec la réalité des faits, quoi.
Et ceci que tu m'avais dit, Romain, est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que tu t'obligerais à avoir une réflexion? Qu'est-ce qu'il est noté?
Il est marqué que j'aurais pris 10 à 15 ans de prison si j'avais été majeur. En fait, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Quand un jeune rentre à l'IPPJ de Strasbourg, la première chose qu'on lui dit, c'est que s'il était placé ici, c'est parce que ses faits, s'il était majeur, équivaleraient à 10 à 15 ans de prison. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu, ça m'avait pas fait grand-chose, parce que j'étais toujours dans mon trip assez fermé, et je me disais, je suis pas majeur, donc il n'y a pas de problème, quoi, je suis mineur, ça sert à rien de me le dire. Mais après, je me suis dit que, en fait, si je décidais pas à m'en sortir, je pourrais recommettre les mêmes faits, de manière encore plus grave, carrément peut-être passer à l'acte, vraiment commettre un attentat. Et donc là, ce serait irréversible, et ce serait 30 ans de prison, perpétuité, voilà. Donc ça m'a quand même fait prendre conscience que 10 à 15 ans de prison, si j'étais majeur, je ne tiendrais pas, quoi, ce serait...
Que dit la juge, ton rapport avec lui ou elle?
Donc j'ai eu ma réunion de synthèse le 4 juin, elle était présente sur place, et donc et comme les éducateurs voient une évolution hein, dans mon travail, dans ma remise en question, dans ma remise dans le droit chemin, si je puis dire. Et donc, elle projette de me faire sortir en septembre de pouvoir retrouver une vie normale dans un internat pour reprendre une scolarité normale, mais elle préfère me garder le mois de juillet, le mois d'août pour juste finaliser ce qu'il faut terminer. Mais elle va me donner des congés plus longs pendant les vacances pour pouvoir voir si je suis apte à retourner dans la société sans faire de conneries ou des trucs comme ça. Et donc voilà, ma juge veut me faire confiance et veut que je m'en sorte.
Merci hein, Romain, je te propose l'avant-dernière musique ici. J'espère que je ne me suis pas trompé.
Non, ça va. Donc voilà, on vient d'écouter Save Your Tears de The Weeknd. Donc si j'ai choisi cette musique, c'est parce qu'en fait j'aime bien l'artiste. Je l'ai un peu choisi au hasard, pour être honnête avec vous, parce que je trouve que c'est un bel artiste et ses musiques racontent beaucoup de choses. Et là, c'était une musique assez positive pour finir l'émission.
Merci beaucoup. Et je te posais la question, comment tu te sens par rapport au projet qu'on réalise aujourd'hui, Romain ?
Je me sens positif hein, parce que en fait c'est enfin je peux maintenant montrer que je peux faire confiance aux gens comme ça et pouvoir pouvoir créer un projet, me montrer capable de pouvoir créer un projet et je trouve ça aussi chouette de pouvoir donner cette opportunité aux jeunes de raconter dans l'anonymat leur vie, leur parcours et voilà sans être jugé finalement et je trouve que c'est une bonne chose.
et t'encourager à aller mieux.
Oui, c'est ça.
Et à t'éloigner de ces idées liées à de la tristesse et de la rancœur, et de comprendre ces mécanismes qui font que t'es pas bien, parfois, par rapport à des gens aussi.
Et c'est aussi pour... si des gens se trouvent dans la même situation, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas seuls, qu'il y en a qui existent aussi, qui ont vécu des choses difficiles, qui se sont radicalisés. Et je pense que ça peut aussi leur montrer que voilà, ils sont pas seuls et qu'on peut les aider et qu'ils peuvent s'en sortir et que c'est pas définitif. Et voilà, il faut juste pouvoir en parler. Et donc je conseille tous les jeunes qui passent par là de pouvoir aller en parler et de pouvoir s'ouvrir pour s'en sortir.
Il y a un mot, Romain, qui m'est resté à l'esprit, en tête de notre conversation de la semaine passée. Hein. Si tu veux plus en parler, on le bac. Mais je voudrais que tu lises ceci.
Pathologie psy, symptômes de sociopathe. Eh ben, en fait, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup... C'est une étiquette qu'on m'a beaucoup collée, que j'étais sociopathe, etc. Parce que j'avais, dans cette période, j'avais un manque d'empathie très fort, parce que avoir une haine comme ça pour les gens, c'est pas avoir de l'empathie. J'étais assez antisocial, hein, j'étais très en marge de la société, j'avais une haine pour une communauté. Et voilà, j'étais assez extrême et violent, ce qui sont en fait des symptômes de la sociopathie, mais aujourd'hui j'ai reçu le bilan de mon expertise psychiatrique et il s'avère que je ne suis pas sociopathe, enfin du moins le psychiatre ne l'a pas vu. Et donc voilà, c'est assez positif parce que je n'ai pas de pathologie et donc c'est rassurant je pense pour la société, pour ma psy, pour ma juge, pour tout le monde, pour les éducateurs. Et c'est avant tout rassurant pour moi, parce que je me dis que finalement je suis pas fou et que voilà, je suis simplement passé par une mauvaise période et que je peux m'en sortir avec de l'acharnement, mais voilà.
Du travail et un accompagnement et peut-être une compréhension plus forte de la part de ta famille aussi, si je peux me permettre.
Hein. Oui. Mais on va voir ce que ça va donner.
Et il y avait une bonne nouvelle aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu m'as donné des résultats, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est les examens à l'école, toutes ces séries de choses. Oui. Et toi, tu restes, tu gardes le cap par rapport à ça, et est-ce que tu as de bonnes nouvelles?
Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour mes examens. Voilà, donc j'ai été accepté dans une école qui me permet maintenant de pouvoir passer mes examens et de pouvoir éventuellement passer mon année. Et j'ai déjà passé donc 3 examens, mon examen de français, qui s'est super bien passé parce que je m'en sors avec 80,3%, ce qui est quand même élevé pour la période dont je viens de sortir, quoi, vu que j'ai perdu beaucoup d'heures de cours, 3 mois d'école, tandis que maintenant je suis en IPPJ, et finalement je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Puis hier j'ai eu mon examen de néerlandais avec un oral, et la prof m'a dit que je m'étais plus ou moins bien débrouillé, donc c'est quand même positif parce que je me motive et je reprends le cap de l'école. Et voilà, enfin après, il faut voir ce que l'écrit donne et l'audition et la lecture. Et puis aujourd'hui, j'ai eu histoire. Et c'était sur un thème qui me fascinait, qui était la Révolution américaine et la philosophie des Lumières, donc le concept de démocratie. Il m'a peut-être un peu à l'encontre des pensées que j'avais avant. Mais voilà. Et c'était de la critique de documents, etc. Donc quelque chose dont je suis plutôt doué. Donc j'attends de voir les points, mais je pense que c'est quand même plutôt bien passé. Et puis, normalement, je dois avoir mon dernier examen, c'est un examen de chimie. Mais vu que mes points étaient très bons dans mon ancienne école, ils m'ont finalement annulé l'examen parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien de le passer, pardon. Et parce que mes points étaient suffisants et qu'il n'y a pas besoin de vérifier si j'ai toujours mon niveau.
Avant de terminer, juste ceci, Romain, c'est m'expliquer ce que c'est que le CAPREV. Tu vois, Caprève, et quelques mots sur le conseiller laïque qui fait un travail avec toi ici.
Oui, en fait, le Caprève, en fait, c'est une organisation, je veux dire une ASBL peut-être, qui intervient dans les IPPJ ou à la demande de particuliers. Et en fait, c'est une organisation qui évalue le taux de radicalisation des jeunes, voir où ils en sont dans leur processus de déradicalisation, si ça se dit. Et ils accompagnent les jeunes dans cette étape. Et donc après, sur demande du jeune, ils peuvent donner un compte-rendu à la juge pour la rassurer ou pour voir s'il y a encore un travail à effectuer. Et sinon, pour mon prof laïque, enfin de morale, eh ben, on fait un très beau travail ensemble. Je le remercie vraiment beaucoup parce que ben, il me prend beaucoup de temps pour moi, pour essayer de m'aider, pour il veut faire des activités avec moi en dehors quand il sera sûr, par exemple si je suis prolongé, quand il sera sûr si je suis encore là, il veut faire des activités avec moi, il veut m'aider dans ma conversion au judaïsme. Voilà, il m'aide sans me juger, on a un très bon contact, on rigole beaucoup ensemble. Il est vraiment présent, et j'ai vraiment pu construire une relation de confiance avec lui, sans me sentir jugé, et tout en étant aidé, quoi. Et donc c'est vraiment très positif pour moi, et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir.
T'attends, hein, je peux pas m'empêcher de te faire lire cette dernière phrase.
Apprendre à développer mon esprit critique, oui, ben c'est un des objectifs que ma juge veut que j'accomplisse. Parce qu'en fait, pour en arriver là où j'en suis, pour adhérer à des idées, c'est que mon esprit n'était pas très critique. Je prenais des informations sans les juger, et je les buvais comme ça, en me disant « bah c'est la vérité ».
Motivé aussi par ta colère.
Hein. Oui, qui était motivé par ma colère. Et bah, maintenant, je fais ce travail de, quand je prends une information, bah, vérifier les sources, si c'est vraiment vrai. Et bah, maintenant, ça m'arrive beaucoup plus pendant les élections, quand il y avait beaucoup de discours politiques à la télé. Et ben, je buvais pas plus les idées d'extrêmes, enfin de droite ou d'extrême droite que celle de gauche ou d'extrême gauche. J'analysais, je prenais ou je prenais pas, si c'était réalisable ou non. Et
après c'est difficile, hein, parce oui. Que, en même temps tu as 15 ans, je trouve ça déjà formidable de t'arrêter à essayer de comprendre les différentes propositions de partis politiques tout azimut comme ça, c'est pas évident quoi.
Bah c'est parce qu'en fait, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je suis né quand même avec une intelligence assez différente des autres. Et j'ai quand même une certaine fascination pour le monde politique, etc. Et voilà, tout ce qui est la démocratie, enfin tous ces concepts-là. Et donc, c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées. Donc, c'est plus facile pour moi de pouvoir critiquer ça que, par exemple, le foot, qui est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Mmh. Et donc voilà, c'est parce que je m'y intéresse que je suis capable, on va dire, de pouvoir critiquer ça et de pouvoir reprendre les idées.
Tu as 15 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de cette intelligence ?
Bah en fait, j'aimerais bien soit me lancer une carrière dans la politique.
Où ?
Ou alors me lancer dans l'énergie, dans le développement énergétique. Et faire un diplôme, enfin un master en MBA, un an aux États-Unis ou quelque chose comme ça, ou en Belgique, si ça ne peut pas se faire aux États-Unis.
Je te remercie beaucoup, hein, Romain. Et puis moi, je te souhaite d'être le plus heureux, après, en gardant à l'esprit. Mais je dirais aussi, c'est de réfléchir aux mécanismes liés à la colère, par exemple. Oui. Parce que parfois, ça nous empêche de réfléchir, justement. Bon, ceci étant dit, je voudrais juste savoir ce que tu as pensé de toi aujourd'hui.
Je me suis trouvé plutôt correct. Je pense que j'ai eu facile pour m'exprimer et j'essaie d'être le plus transparent possible, le plus honnête, ce que j'ai fait. Et je suis assez fier de moi.
Et on a bien fait ça tous les deux.
Oui, hein, bon. C'était très captivant.
Je te remercie et je te dis peut-être à bientôt. Et on va se quitter sur
Back to Black de Amy Winehouse.
Au revoir, hein, Romain.
Au revoir.
12 de la noche en San Salvador, El Salvador.